Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Appel de Benoît XVI en faveur de l'arrêt des violences entre Israéliens et Palestiniens dans la bande de Gaza. Le pape a pris la parole à l'issue de l'audience générale. Une audience générale consacrée aux relations entre foi et raison, un thème cher à Benoît XVI que nous entendrons en français. Autre thème cher au pape, la relation entre la foi et l'art. Benoît XVI a envoyé un message aux participants de la séance publique des académies pontificales sur cette longue et fructueuse collaboration. Dans ce magazine, nous reviendrons également sur la visite ad limina du deuxième groupe des évêques français. Selon Mgr Ulrich, archevêque de Lille, le regard de la curie romaine sur l'Église de France a évolué. Nous parlerons également de l'Église d'Angleterre qui a refusé d'une courte tête l'ordination des femmes évêques. Nous verrons que ce n'est pas une si grande surprise avec l'historien Bernard Cotteret. Nous entendrons également Mgr Defarge, évêque de Constantine en Algérie. Il nous parlera des problèmes qu'il rencontre au quotidien, mais aussi de son expérience dans le champ de la nouvelle évangélisation. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. L'actualité du Proche-Orient s'est de nouveau invitée lors de l'audience générale ce mercredi matin, salle Paul VI au Vatican. À l'issue de sa catéchèse et de ses différents saluts, Benoît XVI a lancé un appel en faveur de l'arrêt des violences entre Israéliens et Palestiniens, suivant avec une grave préoccupation l'aggravation de la situation dans la bande de Gaza. Le pape a rappelé que la haine et la violence ne sont pas des solutions aux problèmes. Il a encouragé les initiatives et les efforts de ceux qui cherchent à obtenir une trêve et à promouvoir la négociation. Le pape exhorte en outre les autorités des deux parties à prendre des mesures courageuses en faveur de la paix et à mettre fin à un conflit qui a des répercussions négatives dans tout le Proche-Orient. Un Proche-Orient, a conclu le pape, marqué par trop de conflits et demandeurs de paix et de réconciliation. Avant de lancer ce message, le pape a centré sa catéchèse sur un thème qui lui est cher, le rapport entre foi et raison. La foi permet de connaître vraiment Dieu et transforme toute la personne, a-t-il déclaré. Profondément touché par la présence de l'Esprit de Jésus, nous réussissons à dépasser nos égoïsmes pour nous ouvrir aux vraies valeurs de l'existence, a souligné le pape notamment dans son résumé en français que je vous propose d'écouter.
La foi permet de connaître vraiment Dieu et transforme toute la personne. Profondément touché par la présence de l'Esprit de Jésus, nous réussissons à dépasser nos égoïsmes pour nous ouvrir aux vraies valeurs de l'existence. Notre connaissance de Dieu dans la foi ne se fait pas sans notre raison. Dieu n'est pas absurde, il est mystère, c'est-à-dire surabondance de sens et de vérité, de lumière qui illumine la raison humaine. La foi et la raison ne s'opposent ni se combattent. Elles sont les conditions requises pour comprendre le sens et le message de la révélation divine. La recherche de l'intelligence de la foi est un acte intérieur à la foi. Le rapport harmonieux entre la foi et la raison est la juste voie qui conduit à l'absolu et à la réalisation de l'être humain. En ce sens, la croix du Christ n'est pas un événement irrationnel, mais un fait salvifique qui se justifie par une nouvelle forme de rationalité basée sur la foi. L'homme est au centre de la création, non pas pour exploiter déraisonnablement, mais pour la protéger et la rendre habitable. Si la science permet à la fois la compréhension du dessein de Dieu sur l'univers, la foi pour sa part permet à la science d'œuvrer pour le bien et la vérité de l'homme. Sans Dieu, l'homme se perd. Croire est raisonnable. Seul le Christ satisfait totalement les désirs de vérité et de bien qui sont inscrits dans tout homme.
Benoît XVI, lors de l'audience générale, qui a encouragé les fidèles à ne pas oublier que l'Évangile inaugure un nouvel humanisme et offre une authentique grammaire de l'humain et de toute réalité. Il nous appartient de le méditer et de faire resplendir sa lumière chaque jour, afin que beaucoup de nos contemporains trouvent dans le Christ le sens de leur existence et le véritable fondement de leur liberté. Un peu plus tard, dans la journée, Benoît XVI a envoyé un message aux participants de la 17e séance publique des Académies pontificales qui discutent du thème « L'artiste comme l'Église est un témoin de la beauté de la foi ». Un autre thème cher au pape. Benoît XVI a rappelé en outre pourquoi il avait décidé d'unifier la Commission pontificale pour les biens culturels de l'Église et le Conseil pontifical pour la culture. C'est pour faire en sorte que les importants biens culturels de l'Église, qui sont un témoignage éloquent de la fécondité de la rencontre entre la foi chrétienne et le génie humain, puissent trouver leur juste place et puissent être valorisés au mieux. C'est d'ailleurs sur ce thème et dans le cadre de l'année de la foi que s'est tenue cette séance publique des Académies pontificales. Un thème qui est aussi, a souligné le pape, la grande aspiration du Concile Vatican II. Justine Vassogne.
Le dialogue entre l'Église et les artistes n'est pas récent. Il n'est qu'à voir l'immense patrimoine artistique de nature religieuse à travers le monde et à travers le temps. Comme l'a écrit Jean-Paul II en l'an 2000 dans sa lettre aux artistes, toute forme authentique d'art est à sa manière une voie d'accès à la réalité la plus profonde de l'homme et du monde. Benoît XVI a suivi les traces de son prédécesseur et a lui aussi rencontré les artistes. En 2009, il y a 3 ans exactement, il leur avait déclaré notamment que la beauté de la foi ne peut jamais être un obstacle à la création de la beauté artistique parce qu'elle en constitue l'énergie vitale et l'horizon ultime. Le véritable artiste est le gardien de la beauté du monde. Grâce à sa sensibilité esthétique particulière et à son instinct, il peut cueillir et accueillir bien plus en profondeur que d'autres la beauté propre de la foi et donc l'exprimer et la communiquer avec son langage propre. De cette manière, explique Benoît XVI, l'artiste est un témoin privilégié de la beauté de la foi. C'est dans ce contexte de riche collaboration et d'influence croisée que le pape invite les artistes, surtout les plus jeunes, à offrir leur propre contribution à la promotion et à la réalisation d'un nouvel humanisme chrétien à travers leur recherche artistique.
Justine Vassogne. On quitte le champ de la culture et de l'art pour celui de la justice. Et pour mener à bien la promotion de la justice dans le monde actuel, chrétiens et musulmans doivent continuer à approfondir leur compréhension mutuelle par le dialogue et la coopération. Et il ne peut y avoir de justice sans liberté de conscience. C'est ce qui ressort notamment d'un communiqué conjoint publié à l'issue d'une rencontre entre catholiques et chiites iraniens. Cette année, c'est au Vatican que se sont tenues les discussions entre le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et le Centre pour le dialogue interreligieux de l'Organisation pour la culture et les relations islamiques. Reconnaissant à la fois leur convergence et leurs différences, les participants se sont focalisés sur leur champ d'action commun et sur les valeurs qu'ils partagent. Restons encore un peu à Rome, où les évêques français du second groupe ont achevé leur visite ad limina. Les évêques de Reims, Dijon, Besançon ou encore de Lille, pour ne citer que quelques-uns, sous la houlette du cardinal André XXIII, archevêque de Paris et président de la Conférence épiscopale de France, affichent une réelle satisfaction quant à l'accueil reçu à Rome. L'accueil était préparé, on l'a bien senti, explique Mgr Thierry Jordan, archevêque de Reims. Ils étaient au courant de la situation, connaissaient nos préoccupations, montraient un vrai intérêt pour ce qui se passe en France et les choses en ont été facilitées, a-t-il encore souligné. Mgr Ulrich, archevêque de Lille, revient lui au micro de Manuela Figi sur cette visite ad limina et sur ce qui a changé notamment par rapport à la précédente qui avait eu lieu en 2004.
Il me semble qu'il y a eu un tournant assez important, c'est la lettre aux catholiques de France, 1996, un effort théologique et pastoral qui a été entrepris et qui a permis à l'Église de France de se dire « c'est dans la société actuelle, telle qu'elle est, avec beaucoup d'indifférences religieuses, avec une société qui est marquée par les problèmes économiques nombreux et des préoccupations économiques qui parfois aussi font oublier la destinée spirituelle de l'homme. C'est dans cette situation-là que nous ne pouvons pas nous dispenser de proposer l'Évangile et d'annoncer l'Évangile dans la société telle qu'elle est. Et je crois que cette façon de se situer depuis la lettre lettre aux catholiques de France depuis 1996. Elle porte ses fruits 15 ans après. Et donc cela, nous en avons une grande conscience.
Par rapport à votre accueil à Rome, au-delà de simples questions d'organisation, que ce soit ici à Rome ou dans vos provinces, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est aussi la perception de l'Église de France qui a changé ?
Bien sûr, je crois que cela aussi c'est vrai, c'est-à-dire que l'habitude de vivre dans une société séculière où la religion doit être remisée dans une société dite laïque, nous en avons cette habitude-là, nous l'avons depuis un siècle ou deux en France. Et ce qui arrive dans d'autres nations commence à se développer. Nous en avons, je ne sais pas si c'est heureux ou malheureux, c'est un fait, l'expérience depuis plus longtemps que dans d'autres pays. Et donc, nous avons le sentiment, nous n'en tirons aucune gloire, d'avoir simplement un temps d'avance, mais c'est simplement parce que l'histoire a fait les choses comme ça pour l'Église de France. Et donc, nous sommes plus apaisés, d'une certaine façon, et nous disons, il y a la possibilité d'être témoin de la foi.
La France comme pionnière de la nouvelle évangélisation dans une Europe sécularisée, c'est peut-être l'espérance du Saint-Père pour vous ?
Oui, peut-être bien. Je ne me mets pas à sa place directement. Je constate que quand il nous parle, il dit « vous vivez », il l'a dit dans son discours, « vous vivez des situations où vous êtes attendu ». Et votre responsabilité, elle est regardée. La façon dont vous exercez votre charge d'église au milieu de la société, soyez bien sûr, les mots sont là, soyez bien sûr que vous êtes attendu sur ces sujets. Alors, nous sommes attendus par rapport à la France d'abord. Comment nous sommes témoins de l'Évangile dans la situation française, mais nous sommes peut-être aussi attendus par rapport aux autres pays, probablement les autres pays du monde occidental qui vivent cette même sécularisation. Et je le crois, en regardant à travers le monde d'autres situations qui ne sont pas les situations du monde occidental, d'autres pays ailleurs qu'en Occident se préparent certainement à vivre cette étape de la sécularisation.
Monseigneur Ulrich, archevêque de Lille. Traversons maintenant la Manche et rendons visite aux Anglicans. Mardi, un vote historique s'est tenu lors du synode général de l'Église d'Angleterre. La question posée était de savoir si une femme pouvait être ordonnée évêque. La réponse a été non. La majorité des deux tiers nécessaires pour changer les règles n'a pas été atteinte. Et l'examen attentif des résultats des votes montre une nette césure entre la hiérarchie anglicane et la base laïque de la communion. Le synode est en effet divisé en trois chambres. Dans la première, les évêques ont largement voté en faveur du texte qui autorisait l'ordination des femmes évêques. Les pasteurs, dans la seconde chambre, ont dit eux aussi oui, très majoritairement. En revanche, dans la troisième chambre, celle des laïcs, les partisans du texte ne sont pas parvenus à obtenir la majorité des deux tiers. C'est donc un revers pour Rowan Williams qui quitte officiellement la tête de l'Église d'Angleterre lors de ce synode. C'est également un mauvais départ pour son successeur, Justin Welby, qui lui aussi défendait le texte de compromis. Mais ce vote est-il une surprise ? Pas vraiment en fait, selon Bernard Cotteret. Il est historien de l'Angleterre et fin connaisseur de l'anglicanisme.
Je pense que beaucoup s'attendaient à cette réaction parce qu'on savait qu'il y avait une certaine frilosité d'une partie des anglicans conservateurs qui s'étaient déjà exprimés au moment de l'ordination des femmes prêtres. Donc à l'heure actuelle, la situation est la suivante. Il y a des femmes prêtres dans l'Église anglicane, mais il n'y avait pas encore de femmes évêques. Ce qu'il faut dire, c'est que la communion anglicane est extrêmement vaste, donc elle ne se limite pas à l'Église d'Angleterre, Church of England, mais qu'il y a beaucoup d'églises dans le monde qui se réclament de peu ou prou de l'anglicanisme, qui constitue ce que l'on appelle la communion anglicane, et que la décision qui a été prise pour l'Angleterre ne vaut pas, évidemment, pour toute la communion anglicane. Donc il y a déjà des pays dans lesquels, évidemment, les anglicans ordonnent des femmes prêtres et vont jusqu'à les nommer évêques après.
Comment expliquer la césure qui est apparue entre les évêques largement favorables à l'ordination et les laïcs qui l'ont rejetée ?
Depuis très longtemps, en Angleterre, vous avez un épiscopat qui est un épiscopat qui a des idées et relativement avancées. Je ne porte pas de jugement de valeur quand je dis ça, mais je veux dire que ça fait un certain temps que les évêques s'illustrent en fait par leur position assez courageuse et souvent en rupture. Le clergé qui est représenté séparément, donc vous avez une chambre des évêques, une chambre du clergé et une chambre des laïcs, suit également sur ce plan les évêques de plus en plus. Par contre, il y a effectivement des réticences chez les laïcs. Moi, je ne saurais pas l'expliquer très très précisément. Je ne pense pas en tout cas que ça corresponde à l'opinion moyenne des Britanniques.
Ce débat est loin d'être clos. La question a-t-elle des chances d'être de nouveau posée ?
Je pense qu'il va revenir en permanence et qu'il va revenir aussi parce que les Anglicans d'Angleterre vont pouvoir s'appuyer sur ce qui va se passer aux États-Unis. Il y a quand même une communication permanente entre les différentes parties de cette communion anglicane, et il est évident que cette question ne peut pas rester en l'état. Un jour ou l'autre, on va reposer le problème, et qu'un jour ou l'autre, évidemment, on va finir par faire gagner le point de vue favorable à l'ordination des femmes, comme non seulement comme prêtres, mais aussi comme évêques.
Bernard Cotteret interrogé par Marie Duhamel. Et au lendemain de ce vote, Rowan Williams estimait que l'Église d'Angleterre avait perdu une certaine crédibilité. « Nous avons, à dire vrai, un gros travail d'explication à fournir », a-t-il notamment déclaré. Allons maintenant de l'autre côté de la Méditerranée. La Conférence épiscopale d'Afrique du Nord, la CERNA, est en effet actuellement réunie. Évêques, vicaires généraux et administrateurs apostoliques du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de Libye ou encore de Mauritanie se retrouvent pour la première fois à Mazara del Vallo, en Sicile. Un choix loin d'être fortuit. Les évêques ont en effet d'abord répondu à une invitation de l'évêque du lieu, Monseigneur Domenico Mogavero, qui avait participé aux deux précédentes assemblées. Mais la Sicile représente surtout un point névralgique pour les flux migratoires en Méditerranée, sujet sur lequel les évêques de la région affichent leurs préoccupations. Tandis que l'hostilité envers les migrants, surtout musulmans, semble croître en Europe, les évêques veulent faire entendre une parole positive sur ce phénomène, sur la base de leur expérience de pasteur catholique en terre d'islam. Monseigneur Paul Defarge, évêque de Constantine en Algérie, évoque les problèmes qu'il rencontre dans son diocèse, mais aussi donc ce qui va bien. Sans oublier de revenir sur son expérience en termes de nouvelle évangélisation, expérience qu'il a partagée avec les Pères Synodaux en octobre dernier au Vatican.
Chaque fois, on partage un peu de notre vie d'église dans le diocèse. J'ai rappelé le côté, disons, plus difficile, c'est comment assurer une relève. Nous avons des communautés religieuses qui, certaines, vont partir. Certains prêtres aussi, vieillissants, il faut remplacer. Donc, il y a un souci pour les évêques de penser à la relève. C'est pas simple. Bon, donc, on échange un peu là-dessus, comment s'aider dans ce domaine-là. Ce qui me réjouit, c'est, disons, toute une pastorale des étudiants subsahariens, venant des pays de l'Afrique subsaharienne, qui sont une grâce pour notre Église et... tout ce qui est fait par les aumôniers, les curés de paroisse, pour accompagner, réunir, former, catéchiser ces jeunes, ça vaut le coup, parce qu'ils sont les premiers témoins de la foi auprès de leurs collègues. Je me réjouis aussi de ce que nous pouvons de plus en plus rejoindre les travailleurs des chantiers internationaux, en particulier les Philippins, qui viennent davantage, disons, dans notre paroisse, Esquida, Annaba. J'ai donné des nouvelles de la basilique Saint-Augustin, qui est en restauration, et l'Algérie, les Algériens, les responsables, les autorités algériennes, les sponsors algériens ont été très très partie prenante de ce projet, et comment autour de cette basilique, et surtout du personnage de Saint-Augustin, ben, il se passe quelque chose dans mon diocèse. La figure d'Augustin est un lieu de rencontre, de dialogue. Voilà.
Vous avez également pu partager à vos confrères les résultats des travaux du synode pour la nouvelle évangélisation auxquels vous avez vous-même participé.
Disons les points sur lesquels j'ai plus insisté. L'idée de nouvelle évangélisation, d'où c'était parti, comment le synode a essayé de définir cette expression qui a pris un sens un peu plutôt d'évangélisation renouvelée dans son ardeur et puis dans un monde qui bouge, qui change. Le deuxième point, c'est, on a parlé bien sûr de la rencontre avec l'islam, mais donc la proposition sur le dialogue avec l'islam, on y est revenu. Et justement, pour insister que l'Église, à travers le synode, fait sienne et encourage à vivre ce dialogue avec les musulmans, et que même, il y a cette expression, le dialogue fait partie de la nouvelle évangélisation. Donc c'est pas quelque chose d'à côté, c'est pas de la pré-organisation, non. La rencontre de l'autre, même les rencontres d'humanité sont déjà là, comme une bonne nouvelle d'une fraternité en route et en chemin.
Monseigneur Paul Defarge, évêque de Constantine, interrogé par Manuela à Fidji. C'est ainsi que prend fin ce magazine. Merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.